Chroniques antarctiques, voyage à la mer de Ross. Je vous emmène naviguer au cœur d'une expédition polaire le long des côtes de l'Antarctique.
Voilà, il y a tout devant derrière. Voilà, tout devant derrière. Tout à fait, voilà, tout devant derrière.
Ok.
Bonjour à vous, chères auditrices et auditeurs de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Dans la chronique précédente, Yves, le biologiste à bord de Persévérance, nous avait décrit tous les mammifères marins qu'il avait pu observer au cours de notre mission antarctique. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans l'archipel des Baleinies, constitué de trois îles principales, Sturge, Buckle et Young Island, et plusieurs petits îlots. Cet archipel a été découvert pour la première fois vers 1840 par des navires baleiniers. Il est situé entre 66 et 67 degrés de latitude sud, donc à cheval sur le cercle polaire, dans l'océan Austral, à environ 300 km au nord du continent antarctique. Et cet archipel est très peu fréquenté, car situé en dehors des routes habituelles pour descendre vers les bases de la mer de Ross, et surtout parce que ces îles sont très inaccessibles à des latitudes soumises fréquemment aux tempêtes de l'océan Austral. Elles sont souvent encerclées de banquises et surtout leurs côtes abruptes rendent les débarquements très difficiles. Thomas, notre officier navigateur, va maintenant nous détailler tout cela.
Oui, donc Thomas, toujours à propos des baleinies. Apparemment, ces îles ont été très très peu explorées et découvertes tardivement. Il n'y a jamais eu de base permanente. C'est vraiment le bout du monde, hein, c'est bien ça?
En effet, on a très peu d'informations. On a trouvé un rapport d'une étude de 64 qui explique qu'il y a eu quelques expéditions dans les années 50. Et en 1964, ils ont fait une mission pour étudier la possibilité d'établir une base permanente sans succès. En fait, la seule île... celle vers laquelle on se dirige, Sabrina Islet, la petite île de l'île du milieu, accueille une colonie de manchots avec une plage, mais est très très abrupte, c'est très hostile. Et donc il n'y aurait pas d'intérêt, même scientifique, pour essayer de rester de manière permanente sur l'île. Ensuite, on déplore apparemment moins de 40 débarquements vraiment sur l'île. Les derniers débarquements, ça a été fait en hélicoptère sur quelques plages, mais sinon c'est très hostile pour débarquer.
Oui, ok, des îles très inaccessibles. Mais on voit bien, hier, on était dans l'île du Sud, la Buckle Island. Évidemment, on n'a pas pu débarquer parce qu'on était au pied de falaises de rochers abrupts et surtout au pied de falaises de glace, tous les glaciers qui descendaient de la calotte de l'île. Et donc, c'est totalement inabordable.
En fait, le lendemain de cette discussion avec Thomas, nous avons quand même réussi à mouiller à l'abri de Sabrina Islet, un petit îlot avec un impressionnant monolithe de 80 mètres de haut, une espèce de menhir basaltique planté verticalement dans l'eau. Et nous avons pu trouver une petite plage parmi les glaçons, ce qui nous a permis d'y débarquer en zodiaque. On y a rencontré une faune très riche, avec des colonies de manchots adélie et de manchots jugulaires, des pétrels d'Amier du Cap, des phoques de Weddell et quelques éléphants de mer dormant sur la plage. C'est pour cette raison que Sabrina Islet a été déclarée ZSPA en 2011, c'est-à-dire zone spécialement protégée de l'Antarctique. Et donc Yves a pu inventorier tout ce petit monde, ce qui est très rare. Et pour ne louper personne, nous avons dû grimper dans les éboulis volcaniques jusqu'à la lisière de la calotte de glace qui domine toute l'île. Des paysages impressionnants, vraiment un grand moment de l'expé. Au-delà d'être déclarées ZSPA pour certains sites, les îles Baleinies ont un statut très particulier. Alors, Grant, toi qui es néo-zélandais, est-ce que tu peux nous expliquer un petit mystère sur les cartes marines et d'autres cartes? On voit que les Baleny Islands, les îles Baleny dans lesquelles nous sommes en train de naviguer, sont marquées New Zealand Territory, alors que nous sommes au sud du 60e degré sud, donc dans la zone antarctique. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus?
Ben, les îles Baleny, en fait, ils sont inclus dans le Ross Sea Dependency. Donc ça, c'est la zone, le territoire antarctique de Nouvelle-Zélande. Les îles sont dans ce territoire de Ross Sea.
Oui, alors il faut rappeler aux auditeurs que l'Antarctique, depuis le traité de l'Antarctique des années 50, l'Antarctique est une terre internationale qui n'appartient à personne, mais il y a des revendications territoriales par différents pays qui sont plus anciennes que le traité, qui sont reconnues, mais qui ne donnent aucun droit. Alors, par exemple, en péninsule antarctique où on était il y a 2 ans, il y a 3 pays, Chili, Argentine et Grande-Bretagne, qui revendiquent à peu près la même part de gâteau. Du côté de Ross Sea, donc comme Grant l'a dit, c'est la Nouvelle-Zélande qui revendique cette zone-là. La France revendique un tout petit bout d'Antarctique qui correspond à la base du Mont d'Urville, appelé DDU dans le jargon polaire, et qui sera d'ailleurs le prochain objectif de notre mission. Juste avant d'arriver aux îles Baleny, donc en provenance du Cap Adare sur le continent antarctique, nous avons pu profiter d'un créneau météo et glace favorable pour déployer un engin surnommé le Wave Glider. Alors en français, ça donne planeur de vagues. Bon, c'est pas vraiment plus clair qu'en anglais, donc ça va mériter une explication. Pour étudier l'océan mondial, les océanographes déploient de nombreuses plateformes sans équipage humain embarqué, qui se déplacent donc de manière autonome, tout en mesurant les paramètres de l'océan et de l'atmosphère. Elles transmettent ces données par satellite aux laboratoires à terre impliqués. Ces robots autonomes sont particulièrement importants pour l'étude de l'océan austral, où les campagnes classiques effectuées par des navires océanographiques sont peu nombreuses, surtout en hiver. Au début de notre mission, nous avons déployé dans cet océan austral une bouée dérivante, le TIPOD, donc bouée de surface qui mesure les paramètres météorologiques de l'atmosphère et la hauteur et fréquence des vagues. Cette bouée n'est pas propulsée ni pilotée, elle dérive au fil du courant circumpolaire et, si tout va bien, elle devrait effectuer un tour complet du continent antarctique dans les 2 ans qui viennent. Mais il existe aussi des plateformes propulsées dont on peut piloter la trajectoire par liaison satellite depuis la Terre. Depuis une 20aine d'années, on déploie des gliders. Ce sont des planeurs sous-marins qui ressemblent à un petit avion de 2 mètres de long, en gros, avec des ailes et un empennage de queue, qui lui permettent donc de voler sous l'eau. Ils effectuent des plongées régulières entre la surface et 2000 mètres de profondeur, la propulsion étant assurée par ballastage variable, c'est-à-dire variation de la flottabilité du véhicule entre la phase de plongée et la phase de remontée. Arrivé en surface en fin de plongée, le glider établit une communication par satellite avec la Terre qui lui permet de transférer les données qu'il a mesurées pendant sa plongée et recevoir des ordres pour sa trajectoire à venir. C'est donc un robot sous-marin pilotable, mais avec une autonomie limitée par la capacité de ses batteries qui alimentent les instruments de mesure et surtout le piston hydraulique de ballastage qui est très gourmand en énergie. On doit donc en général les récupérer au bout d'un mois ou deux, et donc ils ne sont pas adaptés pour les missions de très longue durée dans l'océan austral. C'est pour cela que plus récemment on a inventé le Wave Glider. Donc c'est un engin en 2 parties, composé d'un flotteur de surface qui ressemble à une grosse planche de surf en gros, et une torpille immergée à 10 mètres sous la surface, munie d'ailes orientables. Le flotteur de surface subit les mouvements verticaux des vagues, c'est ce qu'on appelle le pilotement, et ça induit des variations périodiques dans la tension du câble qui relie le flotteur à sa torpille. Et ces variations périodiques sont transmises aux ailes horizontales orientables de la torpille qui effectuent ainsi un mouvement ondulatoire analogue au mouvement de nage des baleines ou des humains qui pratiquent la nage papillon. C'est donc une formidable invention qui convertit l'énergie gratuite des vagues en mouvement de propulsion. Ça donne ainsi au Waveglider une autonomie énergétique quasi illimitée, puisqu'il a également des panneaux solaires et une petite éolienne sur son flotteur de surface pour alimenter toute l'instrumentation de mesure et de communication. Alors la contrepartie, c'est évidemment qu'il ne peut pas plonger, donc les mesures océanographiques effectuées se limitent à la couche de surface entre 0 et 10 mètres, contrairement au glider plongeur. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Le Waveglider qui nous a été fourni par un laboratoire américain, le Scripps de San Diego en Californie, est donc un prototype spécialement conçu pour l'océan austral, car c'est une première, aucun Waveglider n'a jamais été déployé dans cet océan des tempêtes. Nous avons donc pris de grandes précautions pour mettre notre bébé à l'eau, et Romain, le matelot du bord, nous raconte maintenant la manœuvre.
Je l'arme, moi. C'est bon. Il y a le cœur bleu, Damien. Ouais. Le bleu, il faut libérer le bleu. Il va.
Merde, il y a un nœud, là.
Ça va y aller.
Non, c'est bon, continue. Ça file.
Tout va bien. Essaye de partir par là. Tire la barre vers toi, Soleil.
Tire la barre vers toi.
Là, vas-y, reprends un peu de boue. Emmanuel, reprends du coup, faut pas que ça se coince dans les pattes.
Tout d'abord, c'est une manœuvre qui s'est bien déroulée. Donc en fait, on a déployé le Waveglider à l'aide de la bombe. Donc ça pèse son poids, c'est assez fragile comme tu l'as évoqué. Donc on a un chariot sous la bombe, ça en est servi, donc un palan. On a soulevé le Waveglider avec ce palan-là. On l'a bien maintenu avec des manœuvres et des boots, donc beaucoup de personnes sur la plage arrière qui maintenaient le Waveglider pour pas qu'il s'éclate contre le bordé à l'aide de boots. On l'a soulevé, donc nous on était en manœuvre dans le cockpit du bateau avec les winches. Une manœuvre qui l'a tiré vers le haut, des manœuvres à la main qui le maintenaient pour pas qu'il s'éclate vers les côtés. Et ensuite on a débordé la bombe sur le côté bâbord du bateau, donc côté extérieur. On l'a bien débordé, on a créé une retenue de bombe. Donc avec l'aide de la bombe, on a donc décalé le Waveglider hors de l'eau. Et on a lentement choqué plusieurs personnes dans le cockpit, quelques personnes en bas. L'annexe en renfort dans l'eau avec toi-même tu et Solène dans l'annexe. Beaucoup de personnes, beaucoup de moyens mis en œuvre pour prendre soin de ce wave. Faire ça dans l'Austral, c'est quand même assez engagé. Voilà, ça s'est très bien passé et ça a été une belle manœuvre, bien réussie.
Il faut rappeler que le Waveglider, il pèse 350 kg. Et quand tu parles de la baume, donc c'est la baume de grand voile, on n'a pas de grue à bord de Persévérante, donc on utilise la baume de grand voile comme un espèce de mât de charge, quoi. Solène, j'étais avec toi dans le Zodiac, raconte-nous donc la manip vue du Zodiac.
Il allait se concentrer parce que le Waveglider était assez fragile et en débordant la baume pour descendre le wave, bah du coup on voyait qu'il balançait pas mal et que ça l'a fait. Il y a juste un petit moment, j'ai cru que le wave allait taper contre la coque, mais finalement non, Hervé a bien retiré sur le boot.
Et puis après, on lui a dit au revoir, vu que c'est depuis le Zodiac qu'on a fait les petits préparatifs finaux du truc, et après on lui a fait coucou, au revoir. Hein.
Ouais, c'est ça. On lui a fait coucou, au revoir et il était parti. On est resté un petit peu à côté, à un nœud. Il allait quasiment à la vitesse du Zodiac au ralenti. Au bout d'un moment, on l'a laissé filer et avec le bateau, on l'a suivi pendant 2 petites heures et après, il a fait sa route, une belle route apparemment.
Comme l'a dit Solène, le Waveglider se porte bien depuis sa mise à l'eau. Comme il transmet sa position et ses mesures toutes les heures par voie satellite, nous pouvons le suivre. Donc, il va tout bien. Il survit aux nombreuses tempêtes qui lui passent régulièrement sur la tête. Les collègues américains l'ont piloté jusqu'au cœur du courant circumpolaire et ils pensent aller le récupérer dans quelques mois quand il passera le Cap Horn au sud du Chili. Voilà. Dans la prochaine chronique, nous quitterons les îles Baleini en route vers l'ouest pour la Terre à Delhi. Donc à bientôt, chers auditeurs. Chroniques antarctiques, voyage à la mer de Ross. Je vous emmène naviguer au cœur d'une expédition polaire le long des côtes de l'Antarctique.
Bon, là, on y est.
Ok.